France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Masha Merrill.
Elsa Boublil.
Être et ne pas paraître.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches? Comme sur l'écran de mes nuits blanches. Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
C'est sur cette célèbre chanson de Claude Nougaro, dont la musique est signée Michel Legrand, que nous vous accueillons. Masha Merrill, comédienne, écrivaine, vous venez de signer Vania Vassia et la fille de Vassia chez Liana Levy, un roman qui raconte les destins de Russes blancs pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, avec les questions identitaires qui leur sont propres et que vous avez connues, rester russe en défendant la République française, s'intégrer en France en oubliant le passé ou reprendre le combat contre Staline, un roman qui résonne singulièrement avec votre histoire, Masha Merrill. Bonjour.
Alors, jusqu'à présent, on n'a dit que des choses fausses. Ah. Enfin, moi. Un, c'est musique et vous. C'est pas musique
ah,
et
non,
moi.
Non, c'est et moi.
Deux,
c'est l'émotion.
Je ne m'appelle pas Masha Merrill, mais je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina.
Ça, c'est l'occasion de
voilà.
Le dire.
Et troisièmement, être et ne pas paraître, ce n'est pas du Shakespeare, mais c'est la devise de ma famille.
On allait voilà. y venir. J'avais envie d'abord déjà de vous
je voulais
présenter.
Corriger, vous permettez, hein, parce
vous avez raison. Donc vous êtes comédienne, écrivaine aussi, on vient de le voir, veuve de Michel Legrand. C'est pour ça que j'ai choisi le cinéma de Nougaro Legrand, puisque
c'est un chef-d'œuvre que quelques personnes ne savent pas que la musique est de Michel Legrand. Il a chanté lui-même d'ailleurs, et
mais Nougaro l'a ouais, interprété aussi.
L'a interprété, et Nougaro, c'était pour lui du sur-mesure pour lui. Il l'aimait beaucoup comme parolier. Vous savez que c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier. Mmh. Nougaro n'était pas chanteur. Mmh. Et un jour, Legrand a dit « Mais il faut absolument que tu chantes ». Il l'a vendu à Canetti à l'époque, qui dirigeait Philips. Et Canetti n'y croyait pas. Il dit « Non, 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 il ne va pas faire carrière ce type-là ». Et voilà, vous avez vu l'instinct et la perspicacité qu'a eu Michel Legrand.
Oui, et une belle carrière et grand parolier, Claude Nougaro. Être et ne pas paraître, pour en revenir aux paroles, vous dites donc, vous vouliez me reprendre sur ce qui était faux, je ne sais plus, j'ai perdu le fil.
Non, oui. Je veux dire que moi j'ai dit que des choses fausses, oui. Pas vous ma chère, non, non. Alors, oui, c'est une chose qui était écrite sur le blason de ma famille. Je suis descendante d'une très vieille famille russe. Mon père était prince Gagarine et moi je suis princesse Gagarine,
redites-nous
en fait fille
nom.
Du prince. Maria Magdalena Vladimirovna, fille de Vladimir, ouais. Gagarina. Et mon titre c'est Kniezhna. Et j'étais très contrariée parce qu'un jour, un copain qui avait des chevaux a appelé son cheval Kniezhna parce qu'il trouvait que c'était très pittoresque. Et donc je suis, comme dans l'aristocratie russe, fille du prince. J'ai donc un titre aussi. Et dans la famille, il y avait ce blason où c'était écrit en caractère latin, car dans l'aristocratie russe, non seulement on parlait le français, mais on s'exprimait en latin, et c'était écrit « être et ne pas paraître ». Alors, c'est issu tout droit de la tradition, justement, que j'essaye un peu de raconter dans mon roman, de ce sens de l'honneur, c'est-à-dire on ne doit avant tout privilégier la personne qu'on est, et ne pas essayer de flatter la curiosité des autres. C'est ça, paraître. Paraître, c'est vouloir montrer plus qu'on est. Or, être quelqu'un, c'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Il est beaucoup de questions de musique dans votre roman Vania, Vassia et la fille de Vassia. Vous-même, je crois, aimez ça. En tout cas,
ça va, je suis encore...
si l'on en croit votre vie, vous êtes une invitée idéale, Macha Meryl, de Musique et moi ce matin sur France Musique. Thank you. Jean-Frédéric Neuberger interprète Zart und Singend de Karl Czerny. Pour commencer cette émission avec vous, ma chère Meryl, c'est un souvenir d'enfance. Évidemment, on pense à nos gammes.
Oh là là, quelle horreur, les cours
doigts.
De piano. Alors, j'ai écouté avec plaisir que c'était ravissant, alors que sous mes doigts, quand je débutais, ça me paraissait un cauchemar, ce Czerny, les études de Czerny. Et vous avez tous fait ça quand on a commencé à faire du piano.
Sûr.
Et puis, alors, je l'ai détesté très injustement, parce que finalement, c'est un compositeur. Plutôt valable. Hein,
mais détesté parce qu'il fallait répéter ces exercices techniques. Hein,
qui permettent moi surtout, c'était un amour contrarié. C'est-à-dire que j'ai aimé le piano et lui ne m'a pas aimé.
Mais vous dites que votre mère disait la même chose.
Oui, j'ai hérité d'elle, absolument. C'est-à-dire que on aurait voulu. Alors, vous savez, c'est aussi l'ambition qu'on a quand on joue d'un instrument, de jouer tout de suite comme les meilleurs. C'est comme on veut skier comme les champions et on veut faire des choses comme les meilleurs. Et il faut beaucoup d'années d'études pour ça. Et je me rappelle, comme Michel Legrand me disait, au bout de ses 12 ans de conservatoire, qu'il continuait à travailler. Tous les jours, il avait un petit piano muet et travaillait parce que les doigts,
faut les entraîner,
s'encrassent et qu'il faut absolument travailler.
Donc, vous avez appris le piano jeune. C'était un choix ou c'était parce qu'il fallait apprendre le piano?
Ah, une jeune fille de bonne famille doit savoir jouer du piano, savoir danser la valse et puis surtout être polie et avoir une tresse dans le dos. J'avais une longue tresse.
Comme Sonia,
que je n'avais jamais coupée jusqu'à l'âge de 14 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai chippées à ma vie personnelle dans ce livre. Et ça, toutes les jeunes filles russes ont toujours une grande tresse dans le dos.
Vous êtes née à Rabat, au Maroc. Alors, vous nous parlez russe.
Je ne parle pas l'arabe, je vous dis tout de suite. Mais
comment ça se fait que vous êtes née à Rabat?
Mon père était ingénieur agronome. Il avait un diplôme très, très pointu de pomologie. La pomologie, c'est la science des arbres fruitiers. Et comme ils étaient très misérables, ils vivaient à Antibes, dans une petite propriété qui était rescapée des richesses de cette famille. Et donc, cette petite maison à Antibes les a sauvés. Ils se sont retrouvés en France, ils étaient cousins. C'est pour ça que je suis un peu dégénérée. Donc, ils se sont mariés et ils tiraient le diable par la queue. Jusqu'au jour où mon père a eu cette proposition d'aller diriger un jardin d'essai à Rabat. Et 10 ans après mes sœurs, ils ont décidé de faire un petit garçon. Et me voilà. Alors donc,
c'est raté.
C'est un peu raté. Mais je pense que ça a eu, alors je veux pas faire une étude du genre, mais je pense que ça a eu une très forte influence sur ma vie. C'est-à-dire, j'ai dû être le garçon qu'il fallait être dans cette famille.
un extrait de la ballade pour piano numéro 2 en si mineur de Franz Liszt, interprété par Claudio Arrau. C'est une ballade que votre mère a jouée.
Un cauchemar. Elle s'éreintait sur ces morceaux de Liszt. Liszt en particulier, hein. Il est vraiment particulièrement difficile à jouer. Et alors, elle s'acharnait, la pauvre. Et bon, moi, j'ai admiré ça et en même temps, je me suis dit, quand la bataille est perdue, il faut faire autre chose. Et j'ai assez rapidement arrêté le piano. Oh, j'avais aussi d'autres activités, d'autres intérêts.
C'était
mais
quoi?
Vers 14-15 ans, ben, le cinéma déjà, ouais. Le cours d'art dramatique au cours du Lin. Donc, alors, je faisais semblant d'aller au cours. J'avais une prof qui habitait rue de l'Odéon et qui s'appelait Madame Chaplin. Et j'oublierai jamais cette femme. Elle était très indulgente. Et elle me consolait, mais elle a vite compris que je ferais autre chose.
Ah oui. Et alors, justement, comment ça s'est passé? Comment vous avez quitté le Maroc à l'âge de 5 ans, je crois?
Oui. Et c'était... Mon père est décédé quand j'avais 4 ans. C'est une histoire tragique, je veux pas trop revenir là-dessus. J'ai perdu mon frère, mon demi-frère, qui est mort la veille de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout à fait inutilement, mon père était si chagriné qu'il a voulu aller chercher le corps et le ramener au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, où il y a la plupart de ces régiments, de ces gens qui sont morts pour la France. Et il a attrapé le typhus sur le bateau qui n'était pas désinfecté peut-être. Et il est mort à Paris. Alors là aussi, c'est une histoire tragique. C'était 15 jours avant que la pénicilline ne soit diffusée dans les hôpitaux.
Ah ouais.
Elle existait dans l'armée, elle n'existait pas encore dans les hôpitaux civils. Et donc, ma mère, en l'espace de 6 mois, a perdu les deux hommes de la famille. Et avec un panache exceptionnel que seules les femmes russes peuvent avoir, elle a dit « Paris, mes filles ne seront pas des petites provinciales. » Alors mes deux sœurs et moi, et ma mère, on est arrivés en France sans argent, sans métier pour ma mère, qui savait tout faire mais rien faire. Et voilà. Et je lui serai éternellement reconnaissante parce que c'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui.
C'est par ce panache, cette...
Oui, et puis cette idée qu'il ne faut pas attaquer bas. Il faut, dans la vie, se lancer dans des choses ambitieuses. Et que c'est ça, au fond, le secret du bonheur. Parce que quand on est en train de grimper une montagne, on est dans l'action, on est dans l'effort et on a un but. Et d'ailleurs, je pense que c'est une philosophie qu'avait Michel Legrand. Nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de questions. Il disait, il faut être débutant. Il faut commencer quelque chose. Et ça va jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, Michel, il était en train de se lancer dans des grandes compositions de musique classique. Donc voilà, je l'ai hérité, ça, et ça me porte.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. How wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Wistful far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile.
The shadow of your smile, très à propos, Macha Meryl, interprété par Hélène Meryl, puisque The Shadow of Your Smile, c'est l'ombre de ton sourire. Vous êtes très rieuse, très dans la vie, dans la joie.
Ça fait très plaisir que vous m'ayez fait entendre ce disque, parce que je connais tout le répertoire de Hélène Meryl, et quand j'ai choisi mon nom, mon pseudonyme, c'est à cause d'elle. Et évidemment, par modestie, j'ai enlevé un R et un L, donc moi c'est M-E-R-I-L. Ne me mettez pas des Y, c'est cette salope de Meryl Streep qui me fait du tort. Mais... Il y a quelque chose de très amusant, c'est que par la suite, j'ai fait une recherche et j'ai découvert qu'elle était croate et qu'elle s'appelait Miltsevich. Donc, elle-même ne s'appelait pas Meryl.
Donc, l'inconscient vous a conduit...
Voilà, nous avons un lien. Alors, rire, qu'est-ce que c'est rire? Rire, c'est la fierté. C'est ne pas subir l'existence. Et je pense que la vertu du rire, c'est ça. C'est de faire un pied de nez à toutes les difficultés et de faire comme si, de toute façon, on va s'en sortir. Alors, c'est plus fort que moi, c'est plus qu'une philosophie, c'est dans mes gènes. Et je crois que c'est la force des émigrés. C'est aussi le sujet de mon livre, ça. C'est-à-dire, je pense que pour certains, être émigré, c'est un drame, et pour d'autres, c'est une force extraordinaire. Je suis dans cette catégorie. Je crois que j'ai tiré tous les profits possibles du fait d'être né autre d'une famille russe, d'être obligée un petit peu de me planquer, parce que quand j'étais à l'école, Gagarine, je peux vous garantir que c'était margarine, saccharine, flagurine, j'ai eu droit à tout, et puis que ça me blessait quand même. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, tout de suite, le premier producteur m'a dit « Ah non, non, ça c'est un nom à coucher dehors. » Alors que c'est un très grand nom d'une très grande famille russe. Et je ne pouvais pas lui dire ça. Monsieur Deutschmeister, il s'appelait. C'était lui qui avait dit à Carnet « Cette dialogue n'est pas française. » Il était roumain et il connaissait rien.
Mais alors vous, votre langue maternelle, Macha Meryl, c'était quoi?
Alors nous avons parlé très vite le français parce que ma mère voulait absolument que nous soyons intégrés. Et quand j'ai perdu mon père, probablement par les Russes, lui rappelait les dialogues qu'ils avaient. Et donc je parle très mal le russe. Je le parle, hein, je le comprends, je le parle. J'ai pas d'accent, alors tout le monde croit que je parle très bien. Mais à la maison, nous parlions l'allemand, l'anglais et évidemment j'ai appris par la suite l'italien.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Donc la musique, on l'apprend parce qu'on est dans une bonne famille. Et comment très vite vous bifurquez, Macha Meryl, vers le théâtre, enfin la comédie, le cinéma?
Alors là aussi, c'est une question d'identité. J'ai très vite compris que pour gravir rapidement les échelons de l'ascenseur social, il fallait que je fasse quelque chose de jeune, vite. Et il n'y avait que le cinéma. Alors évidemment, je traînais à Saint-Germain-des-Prés parce que j'étais championne de bebop. Donc moi j'aimais beaucoup le jazz et je suis d'ailleurs une jazziste. Je n'ai pas du tout adopté le rock'n'roll. L'époque rock'n'roll, je l'ai zappé complètement. Et j'ai compris qu'assez rapidement, je pourrais me faire un nom. Et que je pourrais, en quelque sorte, venger ma famille.
Donc le cinéma, le jazz, le bebop, ça tombe bien. Thank you. Caravan, interprété par Errol Garner. C'est un concert qu'il a donné en Californie en 1955, qui a été réédité récemment et qui nous permet de poursuivre cette conversation, Macha Merrill, parce que vous disiez, vous étiez bebop, voilà, on est en plein dedans, avec ce pianiste hors pair, aveugle, qui est autodidacte en plus. Et cette période-là, ces années bebop dans lesquelles vous avez traîné à Saint-Germain-des-Prés, c'était aussi l'émergence, c'est ce que vous disiez, l'émergence du nouveau.
Ah, d'un nouveau jazz. Et d'ailleurs, Gardner, ce qui est extraordinaire, parce que c'est quand même assez ancien, c'est qu'il annonce Thelonious Monk, il annonce Harold Land et Oscar Peterson, qui étaient vraiment les grands pianistes que Michel Legrand admirait. Il a eu un choc d'ailleurs en les entendant, et je pense que ça a conditionné son existence. C'est-à-dire, le premier qu'il a entendu, c'était pas un pianiste, c'est Dizzy Gillespie, c'est qu'il a compris que il y avait un avant et un après. Le jour où il a entendu du jazz, il a pensé que toute sa musique serait influencée, autant que Gershwin ou d'autres compositeurs qui ont intégré le jazz. Mais lui, plus que personne, il a fait ça d'une façon... Je parle de Michel Legrand. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les seules œuvres qui avaient, grâce à ses yeux, parce qu'il était très très sévère, c'était justement Porgy and Bess et tout ce qui était né à partir du jazz. Et il disait, si Jean-Sébastien Bach composait aujourd'hui, il ferait du jazz. Parce qu'il y a une similitude quand même. Il y a quelque chose dans le temps de Bach qui a à voir avec le jazz.
On va avoir l'occasion de parler de cette histoire avec Michel Legrand, dont on parle depuis le début de cette émission.
Oh, c'est
et qui
inévitable,
sera là jusqu'à
la
fin.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas tout à fait la même. Depuis que j'ai vécu avec lui et qu'il m'a parlé de musique, mon goût et mes opinions ont un peu changé.
Eh bien, c'est l'occasion de l'écouter, justement, Michel Legrand.
Thank you.
Michel Legrand interprète son concerto pour piano dans son premier mouvement avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Vous l'avez tout de suite reconnu à la première note, ma chère.
Il a écrit ça chez moi, dans le Gers. J'ai une petite maison dans le Gers et j'ai un piano à trois quarts queue qui est pas trop mauvais, un Yamaha. Et je l'ai vu composer. C'est un monstre, vous savez. Il écrivait avec une rapidité, surtout les orchestrations, et avec une foisonnement d'imagination. C'est ça qui me trouble vraiment dans les deux grands concertos qu'il a écrits, celui-là pour piano et l'autre pour violoncelle, qu'a joué Henri de Marquet, qui ont été enregistrés ici, à l'Auditorium. Donc il y a pas longtemps, hein, il y a 3 ans. Et il a d'abord un monstre de pianiste aussi, hein. Il est
vraiment, c'est impressionnant.
Impressionnant. Il avait 85 ans. Et je suis heureuse parce que je l'ai beaucoup incité à écrire de la musique classique. C'était son développement. C'est là qu'il tendait. Et c'est vrai qu'il était retenu par tous les innombrables concerts qu'il faisait de musique de film, de toutes ces musiques de variété, les chansons. Il avait une très haute estime des chansons. Il pensait qu'une chanson réussie, ça vaut un opéra. Ça vaut une symphonie, que c'est extrêmement difficile d'écrire une belle chanson et aussi de trouver les paroles qui conviennent. Alors ça, j'en suis fière parce que ça fait partie vraiment de cet épisode de ma vie.
On l'évoquait tout à l'heure, donc c'est une histoire assez, on pourrait dire flamboyante peut-être, Macha Meryl, en tout cas impressionnante d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler votre roman Vania Vassia et la fille de Vassia, puisqu'il y a une histoire comme ça d'amour qui se rencontre. Et puis qui met, en ce qui vous concerne, 50 ans à se réaliser.
Mais vous savez, quelquefois dans la vie, c'est pas le moment. Il y a des moments où les choses ne peuvent pas se faire. C'est ce qui s'est passé entre Michel et moi, c'est que nous nous sommes connus en 64. Il venait présenter Les Parapluies de Cherbourg au Brésil, à Rio de Janeiro, dans un festival de cinéma très important qui n'existe plus.
À Copacabana.
Et moi, je venais présenter un film de Michel Deville qui s'appelait Adorable menteuse. Ça a été le coup de foudre entre nous aussi à cause du jazz. Parce qu'il était très étonné qu'une jeune femme comme moi connaisse si bien le jazz. Mmh. Alors on parlait de Jerry Mulligan, de Stan Getz. Et alors, il y avait un type qui nous avait dit, vous savez, il faut que vous alliez écouter un truc nouveau dans les favelas, c'est la bossa nova. Et on a ensemble découvert le jazz brésilien. Et on passait des nuits dans ces endroits enfumés, alors que les autres allaient se coucher pour être frais le lendemain. Nous, on a vraiment écouter du jazz ensemble.
Mais là, l'amour n'était pas consumé.
Non.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Getz et Antonio Carlos Jobim dans cette chanson des Afinados pour évoquer avec vous, Macha Merrill, donc cette rencontre avec Michel Legrand dans les bars enfumés de Rio.
Favelas, ouais, c'était formidable. Puis alors il est parti, on savait qu'on était fait l'un pour l'autre.
Ah oui, vraiment?
Vraiment, on le savait, on l'a su tout de suite. Vous savez, à un moment donné, j'ai posé ma main, il a mis sa main sur la mienne, j'ai eu comme une espèce d'électrochoc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai compris qu'il était mon jumeau, qu'il était moi en homme. Et puis, lui pareil. Sauf qu'il était marié, il avait deux enfants. Et moi, je suis pas voleuse de mari. Et en plus de ça, moi-même, j'étais fiancée. D'ailleurs, ce mariage-là n'a pas eu lieu parce que je me suis dit, si je suis tombée amoureuse comme ça, c'est que je ne dois pas épouser l'autre. Bon. Et on s'est dit, c'est pas possible. Et
il m'a dit... Vous l'êtes dit vraiment, vous l'êtes formulé.
Oui. Je l'ai accompagné à l'aéroport. L'aéroport de Rio, c'était des heures de voiture. Donc, et là-bas, juste avant qu'il parte, je lui ai dit, il m'a pris la main, il m'a dit, dans une autre vie. On pleurait comme deux malheureux. Et après, on a fait la promesse de ne pas se chercher. Ça, c'était le plus dur, hein. Parce qu'évidemment, on risquait de se croiser à tout moment. Parce que nous avions très peur qu'une étincelle fasse repartir la flamme. Pendant 50 ans, nous nous sommes évités. Je le croisais de temps en temps. Et puis, 50 ans plus tard, pratiquement jour pour jour, il est venu me voir au théâtre. Je jouais une pièce de Didier van Kovelaert qui s'appelle « Rapport intime ». Le soir, il est venu et il m'a dit « Alors que cette fois-ci, je t'épouse
». Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et alors, est-ce que, Macha Merrill, la bossa nova, le jazz ont pu, à des moments, vous ramener à lui, faire réémerger le souvenir de Michel Legrand au cours de ses 50 ans?
Oh bah, oui, alors vous savez, c'est très curieux, les femmes sont plus pragmatiques. Moi, quand j'ai vu que c'était pas possible, je n'ai pas vécu dans le regret. Je le suivais, je voyais tout ce qu'il faisait, tous ses Oscars, j'étais fière, j'étais contente pour lui, je savais que c'était un génie. Et lui, il me suivait aussi. Et j'ai découvert après, quand j'ai vu dans sa bibliothèque tous mes livres, tout ce que j'ai écrit, y compris les livres de cuisine, je me suis dit, ah, donc on s'est gardé comme ça un œil l'un sur l'autre. Mais j'ai eu autre chose, j'ai mené ma vie, j'ai gambadé, hein, parce que... Mais je crois qu'au fond, je l'attendais. Parce que ces histoires autres que j'ai eues, toutes formidables, avec des hommes formidables, très intéressants, aucune n'a vraiment abouti, presque comme si j'avais choisi des gens avec qui je n'allais pas vivre toute ma vie.
Thank you.
Jean-Marc Luzada interprète cette étude numéro 12 en ut mineur, opus 10 de Frédéric Chopin. Chopin, alors c'est à plein d'égards, on a envie d'en parler avec vous, ma chère Meryl, ne serait-ce que par cette histoire d'un tempérament amoureux, tourmenté, contrarié.
C'est-à-dire, c'était un tempérament féminin extrêmement masculin. C'est-à-dire, il était la quintessence de la féminité dans un corps d'homme. Et je pense que Jean-Marc joue ça très 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 bien parce que, pour la même raison, parce qu'il est comme lui. Et alors ça, c'est vraiment une page heureuse de ma vie professionnelle. Nous avons fait un spectacle qui s'appelait Feu Sacré. Je parle au passé parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait partout dans le monde, que nous avons inventé avec Simone Benmussa. Et c'était une conversation entre George Sand et Chopin. Et moi, j'ai appris tous ces textes de George Sand qui sont pas commodes, hein, parce que c'est du langage du 18e. Je vous ai garanti qu'il fallait être calé. Et lui, à l'intérieur de ça, chacun était dans son univers. Il répondait par des musiques de Chopin. C'est un spectacle formidable qui m'a appris beaucoup sur moi-même. Mmh. C'est-à-dire sur... Vous savez, il y a des musiciens comme ça qui vous mettent sur la corde, qui vous obligent à comprendre qu'est-ce qu'on aime vraiment dans la vie. Et avoir le courage aussi d'aimer des choses qui paraissent un peu faciles pour les autres. Et je vais encore reparler de Michel. Il disait toujours
Michel
que...
Michel Legrand,
oui. Il disait toujours que il savait où il y avait de la musique et où il n'y en avait pas. Et il disait que il fallait pas avoir peur d'un certain classicisme, justement, parce qu'il y a des bases, que ces bases, elles ne peuvent pas varier, qu'on doit avoir les pieds accrochés dans le solfège, et après se libérer, comme on fait Stravinsky, Ravel, mais que il y a cette base, et que tout ce qui s'échappe de ça, c'est-à-dire donc la musique tonale, hein, en gros, que c'était du temps perdu et une sorte de gaspillage. J'ai ressenti ça, moi, tout le long de ces échanges que j'ai eus avec Jean-Marc Luzada. Et ça m'a fait aimer beaucoup cet homme qui est Chopin et que j'ai l'impression que je connais.
Et oui, et puis vous parliez de cette sensibilité, de cette féminité, masculinité qui habite Chopin. Vous disiez en début d'émission que vous, sans doute le fait que vos parents aient voulu que vous soyez un garçon, ça vous avait guidé vers ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle,
oui,
mettre ça en miroir?
Oui. Alors d'abord, je pense que mon cas est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des mecs. C'est-à-dire qui ont besoin d'exprimer leur féminité de cette manière-là. C'est-à-dire d'être des femmes qui prennent en charge l'existence, y compris celle des autres. Peut-être parce que c'est naturel, on le fait avec des enfants, alors pourquoi pas le faire avec ton conjoint, avec tes amis, avec ton parti politique, avec... Donc il y a quelque chose comme ça d'entreprenant chez les femmes. Peut-être qu'on a raconté, et c'était un discours masculin, que les femmes étaient des petites fleurs qui devaient être cueillies. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que les femmes sont la sève de l'existence, et donc c'est elles qui gouvernent.
En tout cas, c'est le cas de Sonia, Vania Vassia et la fille de Vassia, qui vient de paraître chez Liana Levy, ça c'est sûr.
Thank you.
Valérie Gergiev dirige l'Oiseau de feu de Stravinsky. Alors, une merveilleuse interprétation, ma chère Meryl, que vous avez appréciée. Cette musique à laquelle vous tenez, qui est presque identitaire, j'ai l'impression.
Oui, parce que c'est vraiment la Russie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce classicisme tordu. C'est ça, Stravinsky, c'est qu'il prend les bases qui existent de la musique précédente et il en fait un truc tout à fait à lui, avec un don d'orchestration extraordinaire. Il a quand même utilisé des instruments très nouveaux. Il y a beaucoup de hautbois, les contrebasses toutes ensemble. Enfin, il a eu des trouvailles sonores extraordinaires. Donc, il a déjà commencé à travailler sur le son, sur non seulement la musique, mais aussi le son. Et puis, que voulez-vous, on est emporté par cette musique. En général, la musique russe, parce que je le mets au même niveau que Prokofiev. Je pense que ils sont différents, mais ils ont quand même cette même vertu de nous obliger à bouger. On peut pas rester immobile. C'est un peu comme le jazz, hein, et un peu comme la bossa nova. On est obligé, avec son corps, d'épouser cette musique.
Et j'ai envie de relier ça à votre roman et à la littérature même russe. Cette littérature pleine de sentiments, d'histoires et de contre-histoires, de personnages qui s'aiment, se déchirent, ne se comprennent pas. C'est un peu le cas aussi dans Vania, Vassia et la fille de Vassia. Tout le monde ne se comprend pas dans ce roman.
Alors, il n'y a pas que ça. C'est que je déteste la littérature qui bien pensante, c'est-à-dire qui choisit un sujet. La littérature, le rôle de la littérature, c'est pas ça. Il faut pas prendre parti. Un auteur doit être pour tous ses personnages. Il doit être d'accord avec tout le monde et comprendre la psychologie de chacun et surtout la souffrance de chacun.
Mais tout le monde ne se comprend pas.
Alors, entre eux, ils ne se comprennent pas, et puis ils finissent par s'accorder. C'est ça, c'est la vie, hein. On s'accorde, on fait des compromis. Et puis, j'ai joué une pièce de Stefan Zweig cet hiver, qui s'appelle La légende d'une vie. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Zweig, c'est ça, justement. C'est qu'il est l'avocat de chacun de ses personnages. Et j'ai essayé, dans ce livre, d'être un peu comme ça. C'est-à-dire de ne pas montrer un faible pour un plus que l'autre.
Et pourquoi ce roman? Qu'est-ce que vous aviez envie de nous raconter, vous qui portez cette histoire de ces Russes blancs?
Alors, il faut que je, hélas, je vous raconte une longue histoire. C'est que, depuis que j'écris, ça fait déjà une paye, hein, je suis au 25e livre, tous les éditeurs, mais tous, me disaient, ah, faut que vous écriviez sur votre famille, les princes, Gagarine, vous comprenez. Parce qu'ils imaginent, ils sont un peu provinciaux, les auditeurs. Ils pensent que un prince russe vit dans la Zibline, avec une cuillère en vermeil dans la bouche et du caviar. Et donc, je leur disais toujours non, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas vécu ça. Moi, je suis une fille d'émigrée, je suis née en France, pauvre, avec les études en France, l'école communale, je vois pas pourquoi je devrais tout d'un coup essayer de réveiller des choses que je ne connais pas. Et puis un beau jour, j'ai eu ce déclic, parce qu'évidemment, quand même toute mon enfance, j'ai beaucoup entendu d'histoires de Russie que me racontait au compte-goutte ma mère, parce qu'elle ne voulait pas que nous soyons nostalgiques de quoi que ce soit, et qu'on puisse penser, mes sœurs et moi, que nous ayons perdu un statut, un univers, une richesse. Et donc, j'ai eu l'idée de cette fille de Cosaque. Les Cosaques, c'est tout à fait à part. Dans l'émigration russe, parmi les Russes blancs, les Cosaques, c'est une communauté qui n'est pas ethnique, hein. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas géographique, c'est un régiment, c'est un ordre militaire. Et ils ont, eux, gardé les traditions russes très très fortement. Ils étaient évidemment très orthodoxes, tsaristes, ils n'apprenaient pas le français. Et contrairement à nous, qui étions cosmopolites et on se mélangeait à la société française, eux pas du tout. Et donc j'ai voulu prendre une héroïne qui parte de là, d'un endroit très lointain, et qui finisse aujourd'hui dans une position très élevée dans la société française. Alors, ça dormait en moi depuis longtemps. Et finalement, c'est le départ de Michel qui m'a obligée à sortir ça pour être à la hauteur de lui, à la hauteur de ce qu'il attendait de moi.
Sì.
Marie-Nicole Lemieux et Karina Gauvin interprètent ce duo Cléopâtre-César de Jules César en Égypte de Handel avec Il Complesso Barocco et sous la direction d'Alan Curtis. Macha Merrill, en écoutant cela, bien sûr, c'était aussi pour évoquer ce duo. Vous parliez avant qu'on l'écoute de ce besoin que vous aviez de prouver à Michel Legrand que vous étiez à sa hauteur. Je me disais, vous avez vécu plusieurs vies, en fait. L'impression qu'on a, c'est que...
Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que personne ne le dit jamais. Au fond, on change. D'abord, on n'a pas qu'une seule vie. Au cours de la vie, et quelquefois, j'entends dans des émissions, vous savez, on me rappelle des trucs que j'ai dit il y a 30 ans, il y a 40 ans, et j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Parce que, heureusement, non seulement on évolue, mais il y a des rencontres qui sont déterminantes, des événements qui sont déterminants, qui font qu'on n'est plus la même personne après. Et moi, je crois que l'espoir, c'est que ces changements soient en croissance, en crescendo. Alors, évidemment, moi, je crois que je me suis améliorée. C'est ce qu'on appelle la culture, parenthèse. Parce que la culture, c'est justement tout ce qu'on acquiert au cours de la vie et qui fait qu'on n'a pas le même goût. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein, pour tous les sens. Vous savez, moi, j'ai développé ça dans la cuisine aussi. Vous savez que quand on commence à étudier les goûts, les saveurs, on se perfectionne et on n'accepte plus n'importe quoi. Alors, je veux revenir quand même sur ces deux chanteuses incroyables. Parce que ça, c'est très amusant, c'est quelque chose qui m'est arrivé tardivement. J'avais un peu de snobisme vis-à-vis des baroqueux. Je pensais que c'était un peu répétitif, un peu chiant, et puis surtout que c'était une mode. Et je dois reconnaître que, à force d'entendre du Handel bien chanté et bien joué, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est qu'avec l'essor du baroque, beaucoup de très grands interprètes s'en sont mêlés. Et alors, quand même, ce sont des moments de musique exceptionnels.
Oui. Oui. Et là, vous avez apprécié justement ces deux voix qui se mêlent. Et dans cette troisième vie, j'avais envie de dire que c'était le troisième cycle de vie, en tout cas, Macha Merrill, vous avez su apprécier. Qu'est-ce qui a changé? C'est comme le goût, c'est le goût à la cuisine, c'est cette oreille qui se développe.
C'est être plus sévère, être plus exigeant. C'est aimer... Comment dire, sélectionner. Il faut laisser tomber des trucs. Il faut oublier des choses qu'on a aimées et ne pas le regretter. Parce que on grandit, c'est comme un enfant. Je crois qu'on est un enfant jusqu'au bout. Et que jusqu'au bout, on peut non seulement changer, mais tout d'un coup découvrir des trésors. Et ça, je dirais que là aussi, c'est un peu le secret du bonheur. C'est de penser qu'il y a encore des trésors à venir et qu'on va découvrir.
Et c'est comme ça que vous avez pu vivre votre plus belle histoire d'amour à partir de 2014.
Alors là, c'était plus que ça parce que tout d'un coup, je suis devenue moi-même. Vous savez, ça c'est fou, c'est la vertu de l'amour. C'est-à-dire que le fait que Michel me rappelle, me choisisse, m'épouse, me veuille et m'aime, c'était une libération de tous les efforts que j'avais faits avant pour moi-même séduire, épouser et faire des choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais prise en charge. J'étais une moitié. Et vous savez, c'est drôle, parce que ça continue. Ce livre, je l'ai écrit avec lui. C'est un livre que j'ai écrit à quatre mains. Parce que je voudrais faire un petit message à toutes les veuves, à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher. C'est pas la fin. Au contraire, le chagrin donne une sorte d'énergie particulière qui est celle-là, qui est face à l'immensité de l'absence, on développe soi-même des capacités et on se surpasse soi-même. Et alors, c'est merveilleux parce que j'ai l'impression de finalement parler avec la voix que je devais avoir depuis longtemps. C'est terrible, j'ai une prétention atroce que je vous dis, mais c'est maintenant que je commence.
Avoir votre voix.
Voilà.
Merci Macha Merrill, on va se quitter avec une œuvre que vous voulez nous faire entendre qui n'est pas apparue dans la bande originale du film de Jacques Demy, Trois places pour le 26.
C'est un inédit complet, un petit cadeau que je vous fais, car c'est une musique que personne ne connaît. C'est en effet une chanson que Michel adorait, Michel Legrand toujours, qui était un morceau de Trois places pour le 26, une scène entre Françoise Fabian et Yves Montand, qui n'a pas été monté. Et donc, cette musique n'a pas été utilisée. Et j'espère, peut-être un jour, de la chanter en chorale avec lui. en duo avec lui.
En tout cas, c'est pour prolonger ce moment avec lui et avec vous. Un grand merci, Macha Beryl, d'être venue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vania Vassia et la fille de Vassia, paru chez Liana Levy. C'est une belle façon aussi de vous découvrir à travers toutes ces pages. On la sent, Macha Beryl, elle est toujours là, toujours, toujours.
Merci.
Michel Legrand, pour terminer cette émission en compagnie de Macha Beryl, qui était l'invitée de Musique et moi ce matin. Je rappelle le titre de son roman, Vania, Vassia et la fille de Vassia, paru chez Liana Levy. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Olivier Dupré qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.